et qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez nombreux...
No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève,
il sait qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
Fusion du cœur du réacteur dans 10 secondes. 9, 8, fusion évitée.
Nous appartenons à la commission de réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il doit y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info pour ce jeudi du mois de juillet. Nous sommes, je ne sais plus, voilà.
Et ben, le 16.
Merci Laurent, vous aurez donc entendu la voix de Laurent qui m'accompagne ce soir. Nous allons vous parler des profiteurs en Iran, et oui, place au business après la diplomatie. Nous partirons en Égypte parler de la liberté de la presse, nous irons au pays de monsieur Vladimir Poutine. Nous parlerons du fichage génétique généralisé et nous partirons là au Koweït. On parlera de Twitter et de la bourse. On parlera de l'extrême droite avec le mouvement du 14 juillet. Nous parlerons de cannabis. Nous parlons de pollution, de rebond, de nucléaire. Et puis, peut-être que nous terminerons avec un quiz, mais d'abord, nous allons commencer avec Laurent et des brèves françafricaines.
Oui, on va parler un petit peu d'Afrique, ce qu'on ne fait pas souvent dans ce Canu Info. Quelques petites brèves d'abord qui nous viennent de la France-Afrique, du Burkina, et on a appris en citant François Hollande, je cite tout de suite, « Nous sommes aussi à ses côtés pour que la justice puisse faire son travail en toute indépendance par rapport à des événements ou à des faits qui ont pu à un moment saisir le Burkina Faso. » Donc c'est ce que François Hollande a affirmé lors de la visite officielle du président du nouveau Burkinabé, président de transition, Michel Kafando. Alors là, entendre ça alors que c'est la France qui a permis à l'ancien dictateur du Burkina, il y a un an, peut-être un peu plus, de se barrer sans se faire lyncher par la population. Intéressant, hein, la France avait soutenu l'ancien dictateur. Donc voilà, c'est peut-être un détail tout ça, mais c'est quand même juste un grand moment d'hypocrisie que cette France-Afrique, et que François Hollande a repris comme héritage de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand avant, etc., etc. Une grande tradition de la République bananière française dans sa relation avec les pays d'Afrique francophone essentiellement. Alors on peut rappeler d'ailleurs sur le Burkina que les militaires français se servent pas mal du régiment de sécurité présidentiel. Hein, ils s'appuient dessus dans leur lutte contre notamment les djihadistes de la région. Alors que ce sont ces militaires du régiment de sécurité présidentiel qui ont quand même tiré sur la foule lors du soulèvement pour faire partir l'ancien dictateur burkinabé. Bon, peut-être que François Mitterrand parlait d'autre chose. Peut-être que quand il a dit comme ça qu'il parle de l'indépendance, notamment face à des événements qui ont touché le Burkina Faso, c'était peut-être par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, dans lequel les États-Unis, la France et d'autres pays ont mis les doigts, ont aidé, ont participé, ont soutenu les assassins qu'ils ont mis ensuite au pouvoir et que la France a soutenu. Peut-être que c'est de ça dont il était question. En tout cas, bizarrement, lors de la demande de la part de la femme de Thomas Sankara à la France d'une ouverture d'une enquête, d'une commission d'enquête parlementaire sur la participation de la France à l'assassinat de Thomas Sankara, le 16 juin dernier à l'Assemblée nationale, ben, il n'y avait pas de député socialiste, personne n'a rien dit, et c'est tombé à l'eau. Hein, bizarrement, allez. Alors, dans la relation France-africaine, on a notamment les interventions militaires françaises, et on a appris, alors là aussi, un beau moment d'hypocrisie, lors de la présentation du rapport d'information qui s'appelle « Engagement et diplomatie », deux points, « Quelle doctrine pour nos interventions militaires ?» Point d'interrogation, c'était porté par le député Guy-Michel Chauveau, hein, c'était le 20 mai dernier, et je cite, et donc les députés français ont approuvé hein, ce qui a été dit globalement sur, que l'action française est globalement positive sur le plan militaire ces 60 dernières années dans les interventions en Afrique. Pas mal quand même, hein, 60 ans d'intervention positive. Bizarrement, on ne retiendrait pas ça. Alors, ils ont même cité l'exemple du Tchad en montrant que grâce aux interventions françaises, il y a une certaine stabilité en Afrique. Alors, ça ne marche pas pour tout. Alors, pour le Tchad, c'est vrai, hein, Idriss Déby est au pouvoir depuis 1990, ça fait plus de 25 ans. Enfin, le président dictateur est essentiellement effectivement soutenu par la France, mais c'est quand même tout sauf glorieux de soutenir un dictateur, hein, puisqu'il a le titre de président, mais il n'en est pas un. Donc voilà, c'est l'hypocrisie france-africaine continue d'exister. On pensait que ça disparaîtrait il y a quelques années, mais non, ça continue. Alors un petit mot sur le Bénin maintenant, puisque la France, là aussi, intervient au Bénin. On l'a appris dans un journal qui s'appelle La Lettre du Continent, c'était le 19 juin dernier. Le président béninois, Boni Yayi, a sollicité la France, et notamment à travers la diplomatie française, pour convaincre Lionel Zinsou d'accepter le poste de Premier ministre. Alors on se dit, mais attends, pourquoi demander à la France de pousser un Béninois pour être Premier ministre? Ben en fait, Lionel Zinsou, il est franco-béninois, donc déjà ça explique un peu les choses. Et puis il est très connu de la diplomatie française, des politiques français, très fan de ce que fait notamment la diplomatie dite économique, mise en place entre autres par Laurent Fabius. D'ailleurs, ce Zinsou, il est à la tête, pour l'instant il est administrateur officiellement, de la fondation qui s'appelle Africa France, qui a été fondée sous le parrainage de Hollande il y a quelques mois et qui vise à promouvoir en Afrique les intérêts des entreprises françaises face à la concurrence, notamment chinoise. Pas du tout la démocratie, hein, bien évidemment. Donc le président béninois fait pression, enfin demande à la France de faire pression sur Zinsou pour qu'il accepte d'être Premier ministre du Bénin. Voilà, comme quoi la France continue de gouverner directement ou indirectement l'Afrique, et là le Bénin. Alors faut savoir qu'il va être remplacé à la tête d'Africa France vraisemblablement par Hakim El Karoui, alors qui est quelqu'un qui est passé par la banque Rothschild, qui a écrit des discours pour Jean-Pierre Raffarin, qui a été soutien de Ségolène Royal en 2007, oui, une girouette politique un petit peu, et qui a soutenu et qui a été du côté du régime Ben Ali jusqu'au bout, donc qui était contre la révolution tunisienne. Et voilà, c'est quand même beau la politique france-africaine. Et pour terminer, enfin non, j'ai encore d'autres infos sur la politique france-africaine. Un petit mot sur la Libye, ça a été révélé entre autres par Mediapart il n'y a pas bien longtemps. C'est des mails qu'envoyait Sidney Blumenthal et qui ont été divulgués, donc qui est quelqu'un haut placé aux États-Unis, qui recevait des informations de la CIA, un ancien de la part. Vraisemblablement abreuvé par un ancien de la CIA. Et c'est Hillary Clinton qui a donné ces mails. Et on apprend dans ces mails qu'en fait, bien avant la révolution, enfin, ou la guerre en Libye plutôt, et l'intervention française, il y a eu une intervention française pour soutenir les rebelles, hein, avant qu'on s'engage officiellement avec le soutien, soi-disant, de l'ONU, que la France s'engage, pas moi, par exemple. Et donc, ces mails nous apprennent effectivement, notamment que Sarkozy avait demandé à ce que la France ait 35% de la reconstruction, ce qui laisse comprendre pourquoi dans les marchés pétroliers qui se négocient actuellement, Total devrait avoir 35%, c'est le chiffre qui circule. Ce 35%, il sort des négociations de l'époque Sarkozy secrète avec le Conseil national de transition qui est arrivé au pouvoir après la guerre donc en Libye. Voilà. Et alors, on reste en Afrique, j'en ai d'autres. Un petit mot sur le Sénégal. Alors, c'est moins directement lié à la France-Afrique cette fois-ci, c'est sur le Sénégal tout court. C'est pas bon signe. Alors, la France n'a pas réagi. C'est pas mal d'arrestations de journalistes qui ont parlé notamment de l'envoi de troupes sénégalaises en Arabie Saoudite. Faut savoir qu'il y a des troupes sénégalaises non pas qui sont envoyées en Arabie Saoudite, pas pour combattre en Arabie Saoudite. Il n'y a pas vraisemblablement de guerre en Arabie Saoudite, mais ils vont combattre au Yémen. Contre les rebelles hein, qui ont pris le pouvoir dans une partie du pays. Alors, ces journalistes ont révélé plein de détails hein, dessus. Il y a 2100 soldats sénégalais qui ont été envoyés. On a le nom des groupes de combat, etc. Et ça n'a pas plu au gouvernement qui révèle tout ça à la population. Donc, il y a eu une grosse vague d'arrestations de journalistes, notamment de journalistes de l'Observateur quotidien qui appartient à Youssou N'Dour, le chanteur. Donc, il y a eu le directeur, il y a eu un journaliste. Alors, eux, ils ont été arrêtés, ils vont être traduits devant la justice. On n'a pas encore toutes les raisons et tout le sens et des risques qu'ils encourent. Mais il y en a d'autres qui ont été confrontés à ça. Il y a l'indirect.sn, qui est un site internet d'information, dont le responsable Mamoudou Wane a été convoqué aussi. Il y a le journal qui s'appelle Enquête, le directeur de publication notamment, ont été convoqués aussi par la gendarmerie. Donc il semble qu'il se prépare une grosse vague de répression contre les journalistes au Sénégal. Pour l'instant, assez peu de réactions de par le monde sur ces vagues d'arrestations de journalistes. Et puis, un dernier mot sur l'Afrique, avec un mot sur le Burundi. Donc, on en a parlé plusieurs fois du Burundi, suite, hein, on vous le rappelle, au coup d'État un peu démocratique qu'a fait Nkurunziza, donc le président sortant. Après son deuxième mandat, il n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat. Dans la Constitution, c'est pas autorisé. Et le Parlement, sous sa pression, l'a autorisé. Donc, des vagues de violence ont suivi la rébellion d'une partie de la population. Et hier, devait avoir l'élection. Une nouvelle élection présidentielle au Burundi. C'est cette fameuse, là où il brigue son troisième mandat. Ils l'ont annulé un peu au dernier moment et ça a repoussé d'une semaine, de 6 jours, puisque ça devrait avoir lieu le 21 juillet. Alors pas mal d'ONG, notamment, c'est rapporté par Reporters sans frontières, dénoncent ce report de 6 jours parce que pour eux, pour ces ONG, c'est largement insuffisant et que c'est pas le report qui changera quelque chose. Il faut absolument qu'il y ait à un moment une politique de réconciliation nationale ou au moins d'écouter la société civile qui se rebelle contre le président sortant qui brigue ce fameux troisième mandat auquel il n'aurait normalement pas droit. Donc, voilà, il y a des pressions un petit peu. Pour l'instant, c'est pareil, assez peu de réactions internationales. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des élections locales et législatives et que les observateurs des Nations Unies ont dit, je cite, que les conditions étaient non propices à la tenue d'élections libres, régulières, transparentes et crédibles. C'était juste avant, effectivement, ça s'est confirmé que les élections n'étaient pas vraiment libres, régulières, transparentes et crédibles. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que tous les médias privés indépendants sont interdits aujourd'hui au Burundi. Il n'y a que la voix de son maître, la radio publique officielle. Donc voilà, la situation ne s'arrange pas, même si l'élection est repoussée au 21 juillet.
Alors on va partir en Iran. La levée dans quelques mois des sanctions économiques et financières appliquées à l'Iran par la communauté internationale va ouvrir la voie à de nouveaux échanges économiques internationaux. Alors évidemment, les investisseurs analysent après plus de 3 décennies de sanctions les belles perspectives du marché iranien avec ses 80 millions de consommateurs, enfin d'habitants. Alors je vous rappelle, depuis 2005, l'ONU, l'Union Européenne ont adopté des sanctions économiques contre les entreprises qui réaliseraient des échanges avec l'Iran dans des domaines assez précis. Il y a l'armement, évidemment, le nucléaire, bien évidemment, la finance, le commerce des métaux précieux, les transports, les hydrocarbures. Et ces sanctions avaient aussi affecté d'autres secteurs qui sont liés, bien évidemment. Donc tout ça avait freiné le développement et l'implantation des groupes étrangers. Certains étaient partis, hein, en plus ces dernières années, voyant le secteur soit pas rentable, soit alors ils étaient attaqués politiquement et donc se sont retirés des marchés iraniens. Mais il faut pas se leurrer, hein, les entreprises n'ont pas attendu cet accord pour rentrer en contact avec leurs collègues en Iran. Mais malgré tout, cette signature va accélérer les rapprochements. On pourrait rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, c'était en février 2014, le MEDEF avait organisé un petit voyage sur place. Alors on y trouvait Suez Environnement, Alstom, Total, Renault, Schneider Electric, les gros étaient tous là. Il y a eu aussi ces derniers temps des délégations de CCI, de Chambre de Commerce et de l'Industrie, qui se sont rendues sur place de manière séparée, tout ça pour aller vendre les savoir-faire locaux. Par exemple, on pourrait parler de monsieur Dabézi, qui est le chef du secteur international à la CCI Paris-Île-de-France. Début juin, il est allé à Téhéran, il s'est transformé en VRP des PME, mais aussi en VRP des écoles parisiennes. C'est-à-dire que c'est exactement le même développement qu'on a pu trouver par exemple au Qatar, c'est-à-dire qu'on va vendre effectivement nos entreprises, mais aussi les entreprises écoles, je ne sais plus bien comment il faut les appeler maintenant. Alors, le petit bémol pour les entreprises française, c'est que la France, à travers les dernières négociations, peut avoir un peu vexé l'Iran. Donc, pour tenter de bien se faire comprendre de la part des Iraniens, il y a plusieurs voyages qui sont prévus. On a déjà M. Laurent Fabius qui a déclaré hier qu'il allait très très rapidement se rendre en Iran. On a M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui est attendu à l'automne, et puis on a monsieur Gérard Larcher qui va faire un voyage en tant que président du Sénat le 19 juillet prochain. Donc voilà,
ça se bouscule au parti.
Ça se bouscule puisque les entreprises et les États sont en concurrence. Les multinationales et les PME chinoises et russes sont déjà bien implantées dans le pays, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui sont restées fortement. Pour les multinationales nord-américaines et pour les européennes, l'idée, c'est l'enjeu, c'est de reconquérir les marchés, de se réinstaller. Alors, les secteurs qui sont concernés, c'est évidemment l'énergie. On rappelle que l'Iran possède les deuxièmes réserves au monde avec le pétrole et le gaz. Donc, il y a des accords qui sont évidemment en train de se construire. Et puis, tous les géants pétroliers préparent leur retour. Il faut se souvenir que Total n'a jamais vraiment quitté l'Iran, puisque Total a maintenu un bureau de représentation à Téhéran. D'autres secteurs qui sont aussi très convoités, c'est le secteur de l'automobile. Alors, Renault était déjà présent par le biais de ventes par intermédiaire. Oui, il y en a qui ont un peu quand même tenté de même s'ils avaient un petit peu des possibilités, ils ont tenté d'autres manœuvres que du direct, on va dire. Peugeot était parti en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Contraint et forcé, parce que c'était un gros vendeur de voitures.
Exactement. Eh ben, Peugeot semble avoir déjà repris contact avec le partenaire historique sur place, l'entreprise Caudreau. Donc ça pourrait mener à une co-entreprise. Voilà, on parle déjà donc de Peugeot et de Renault, mais évidemment ça va aussi concerner Airbus et Boeing, le secteur du BTP, bien évidemment, et puis le secteur de l'agroalimentaire, de la distribution et de l'équipement. Alors c'est des groupes comme SEB et comme Carrefour qui sait très bien se plier aux exigences de certains États autoritaires.
Ah oui, alors voire même qui va plus loin que les exigences des États autoritaires.
Tout à fait, mais enfin pour les profits, tout est bon. Alors on rappellera à ces grands capitalistes que cet accord n'a rien changé en Iran. La même politique, la même diplomatie avec les voisins.
Ouais. Le même ultra-sexisme envers les femmes qui est quand même énorme. Hein. Je vous rappelle, ils n'ont même pas le droit d'aller voir des matchs de sport, enfin des choses comme ça. Ça reste un régime totalitaire avec des milliers de gens en prison. Mais là, le capitalisme aime plutôt les régimes totalitaires d'ailleurs. Hein. Sinon, il ne fera pas de business avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, etc.
Voilà, donc c'est pas la fin du régime autoritaire, c'est pas la fin de la répression, c'est juste une ouverture au marché. Alors, et au profit.
Ça reste une bonne nouvelle quand même pour la population, si ça va jusqu'au bout et s'ils arrivent à faire que ça s'énerve pas, parce que l'Iran est quand même un peu louche sur le nucléaire, faut quand même le dire. Mais d'ailleurs, la solution aurait été d'interdire tout nucléaire sur la planète, comme ça on veut toute centrale nucléaire civile, du coup comme ça il n'y a plus de risque de développer ou beaucoup moins de développer des bombes, mais c'est pas ce qui est voulu par la communauté internationale. Du coup, c'est très compliqué la gestion du nucléaire en Iran et ailleurs d'ailleurs, puisqu'on rappelle que d'autres pays comme Israël, comme d'autres, ont l'arme nucléaire alors qu'officiellement ils l'ont pas et qu'officiellement ils n'ont pas le droit de l'avoir.
Oui, parce que là, l'Iran est surveillé pour 15 ans. À la moindre faute route, et ben effectivement, tout s'arrête et tout se remet en place comme avant mardi et cet accord. Voilà, ça met le capitalisme est déjà bien présent et bien fort.
Oui. On reste dans les pays totalitaires avec un petit mot sur l'Égypte. J'ai parlé la semaine dernière des projets de loi de contrôle de la presse. Donc il y a eu un petit changement. Donc le projet de loi a été examiné hier. Le procureur général d'Égypte. Alors ce qui a entraîné ce projet de loi, je rappelle, c'est les différents attentats. Le procureur général d'Égypte qui est mort dans un attentat à la voiture piégée. Et puis surtout les attaques des islamistes dans le Sinaï. Et le fait que les journalistes aient reporté ce qui se passait dans le Sinaï et qui n'était pas tout à fait la même chose que le discours officiel, qui était un petit peu biaisé, dirons-nous, pour pas dire mensonger. Et donc le dictateur en chef a pas apprécié, et il y a donc ce projet de loi qui a été présenté hier, qui est vraiment un coup dans la gueule au peu de droits de l'homme qui restaient et aux droits de la presse qui restaient en Égypte, notamment cet article 33 qui prévoit jusqu'à 2 ans de prison pour les journalistes qui contrediraient la version officielle dans des affaires de terrorisme. Donc si la version officielle est fausse, il faut que les journalistes disent oui, amen, ou tout ce que vous voulez, mais pas dire la vérité. Alors, l'aspect positif, c'est qu'il y a eu un amendement sur cet article 33. Aujourd'hui, les journalistes ne risqueraient plus 2 ans de prison, mais 200 à 500 000 livres égyptiennes d'amende, c'est entre 23 000 et 59 000 euros. Effectivement, ils n'iront plus en prison, mais de toute façon, comme ils n'auront pas l'argent pour payer, ça reviendra exactement au même. Hein, ça fait un peu mieux vis-à-vis de la communauté internationale, mais dans les faits, c'est exactement le même moyen de brimer la presse, et même encore plus pernicieux, l'argent, puisque du coup, les journalistes ont moins peur des fois d'aller en prison, parce qu'ils arrivent à faire des moyens de pression internationaux, ça démontre aussi des choses, alors que des amendes, ça démontre rien, et ça les met sur la paille, et ça les tue. Beaucoup plus facilement, ça tue leur parole, bien évidemment, pas physiquement, ça tue leur parole bien plus efficacement que la prison. Donc c'est soi-disant une avancée, mais vraisemblablement un vrai recul pour la liberté de la presse en Égypte.
Alors nous allons partir au pays de Vladimir. Monsieur Poutine a toujours plein d'idées pour le nationalisme russe. Alors le 10 juillet dernier, devant des journalistes à Oufa, en Russie, lors du sommet des BRICS, je vous rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Vladimir a déclaré que la Russie aurait sa carte bancaire. Oui, c'est important dans le contexte national et international actuel d'avoir sa carte bancaire. Alors, il n'est pas content, Vladimir, puisqu'il estime que 97% des consommateurs russes possèdent une carte de marque Mastercard ou de marque Visa.
Ouais, Mastercard, ils sont en position ultra dominante sur le marché. Il y a un vrai souci. Effectivement, il n'a pas tout à fait tort. Même si c'est pour des raisons de fascisme et de nationalisme, il n'a quand même pas tout à fait tort.
Alors, en mai dernier, la vice-présidente de la Banque Centrale Russe avait annoncé que la Russie pourrait avoir sa carte de paiement opérationnelle à la fin de cette année. Donc nous attendons. Alors évidemment, ce n'est pas si simple. Poutine s'en prend à Visa et Mastercard puisqu'il a l'air d'estimer que ces groupes font de la politique. En mars 2014, les deux groupes ont suspendu des services auprès de banques russes suite aux sanctions établies par l'Union européenne, par exemple, et les États-Unis d'Amérique. Donc, ben, c'est un peu entre nationalisme et bouderie, plutôt, sur cette histoire. C'est-à-dire que, effectivement, il a toujours toutes les idées pour fermer, malgré tout, la Russie, malgré ce que peuvent prétendre lui-même et son gouvernement. Et en même temps, de la bouderie, c'est-à-dire que ça nous rappelle un peu des fois les bouderies d'un certain Kim, hein, en Corée du Nord, qui n'est pas si loin. C'est une drôle de manière quand même de gouverner. Et puis à côté de ça, il y a toujours des soucis avec les ONG. Ça cesse pas, hein. Semaine après semaine, de plus en plus sont mis sur cette fameuse liste des agents de l'étranger, qui leur interdit donc de percevoir des dons, qui se retrouvent évidemment surveillés. À côté de ça, cette loi de 2012 qui attaque les caricaturistes, les athéistes, puisque cette loi dit que toutes les insultes envers les sentiments religieux des croyants est un délit, donc ça s'améliore pas parce que ça aussi ça tombe, il y a des sites internet qui sont fermés, donc voilà, c'est la Russie de monsieur Vladimir Poutine qui a cette belle idée de vouloir avoir sa propre carte bancaire. C'est quand même une drôle de manière de gouverner tout ça.
Alors on reste dans les régimes totalitaires, on va au Koweït. Donc si vous vous rappelez, il y a 15 jours, il y a eu un gros attentat suicide dans une mosquée chiite. Ça a tué 26 personnes et fait pas mal de blessés. Suite à ça, comme dans tous les pays démocratiques ou totalitaires, on se sert des actes terroristes pour renforcer le régime sécuritaire. Alors pour le Koweït, c'est un peu plus facile que pour les démocraties, mais finalement ça arrive au même résultat. Donc là, ils ont décidé de généraliser le fichage ADN de la population. Comme ça, une fois qu'ils auront tout le monde, l'ADN de tout le monde, ils pourront arrêter plus facilement, soi-disant, les méchants criminels. Alors, on sait que c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que c'est pas parce que vous trouvez de l'ADN de quelqu'un sur place que c'est la personne qui a mis la bombe et pas la personne qui est passée un quart d'heure avant, cinq minutes avant, deux jours avant, un mois avant. Hein, donc, c'est un peu compliqué, la gestion de l'ADN, mais c'est un petit peu le truc facile pour contrôler un peu plus la population d'un pays. Donc voilà, c'est, le texte a été adopté, bien évidemment, sans problème, à la demande du gouvernement. Les risques pour ceux qui refusent, c'est un an de prison et 33 000 $ d'amende. Donc j'imagine, vous faites un an de prison, vous payez 33 000 $, et quand vous sortez, on vous redemande de faire le truc, vous voulez pas, et vous retournez un an en prison, parce que la condamnation, elle arrivera chaque fois que vous refuserez. Du coup, je pense que c'est plutôt de la prison à vie après qui risque d'arriver à ceux qui refusent de donner leur ADN. On rappelle que les Anglais, hein, le Royaume-Uni a voulu faire ça, hein, en 2008. Mais, alors, ceux qui disent toujours que l'Europe sert à rien, là j'ai un bon exemple pour dire que des fois les lois européennes sont mieux donc les lois nationales, comme disent les petits fachos, ben c'est qu'en Europe, c'est interdit de faire ça. Hein, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme avait dit non, et du coup, l'Angleterre n'avait pas pu ficher sa population. Donc comme quoi, même les Anglais qui sont anti-européens, ben ils ont conservé de la liberté grâce à l'Europe. Il faudrait leur dire aux nationalistes et à l'extrême droite anglaise ce genre de choses. Marc, eux, ils sont pour le fichage de la population. Du coup, ils sont pas contents, mais bon, voilà.
Alors, dans la soirée du 14 juillet, entre 11h38 et midi, heure new-yorkaise, le cours de l'action Twitter a connu, mais alors des variations. Ouh là là, on bourse un truc de dingue. Alors pourtant, tout commençait bien dans cette belle histoire. Une hausse stable, 2%, et alors là, d'un seul coup, une envolée terrible. Les actions prennent le feu, une hausse de 8%, et proum, ça retombe brusquement au taux initial. Tout ça, ça s'est fait en 20 minutes. Plus de 40 millions d'actions Twitter ont été échangées. C'est pas normal, hein, je vous le dis tout de suite. On est sur 2-3 millions d'habitudes. Voilà, là, c'est vraiment exceptionnel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors, il se passe un truc. Ça arrive de temps en temps et apparemment, ça se multiplie. C'est une dépêche publiée sur le site Bloomberg.markets qui explique que, d'après des sources bien informé, une entreprise non identifiée allait déposer une offre de rachat de 31 milliards de dollars sur Twitter. Là-dessus, tout s'emballe, la nouvelle évidemment circule, les traders se pressent d'acheter
pour revendre plus cher
des quantités d'actions Twitter,
exactement.
Évidemment dans l'espoir de générer de très grosses plus-values. Et là, patatras, 10 minutes plus tard, le site Bloomberg.com fait savoir que la dépêche, elle est fausse. Et que tout le monde relaie un machin qui n'est pas vrai, avec des informations erronées et qui n'ont pas été publiées par les équipes de Bloomberg.com.
Ah oui, mais ils ont été piratés du coup ?
Non, c'est un faux site qui s'appelait, oui, si tu as bien écouté, Bloomberg.markets.
Ah, c'est bon.
Simplement, les gens ne font pas attention, il ressemblait évidemment à Bloomberg.com, et c'est un site qui a été enregistré et créé à Panama le 10 juillet. C'est-à-dire que c'est tout récent, c'est fait exprès. Alors, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis d'Amérique a lancé une enquête. L'enquête se dirige vers une tentative de manipulation du marché, hein, assez simplement. Alors, je vous le disais, c'est des choses qui arrivent un petit peu fréquemment. Et pour l'instant, ça fait pas des gros dégâts, mais ça fait un peu parfois des dégâts. En mai dernier, c'est le groupe Avon, le groupe de cosmétiques Avon, qui apprend qu'un fonds d'investissement baptisé PTG Capital Partners veut racheter Avon pour des sommes par action absolument gigantesques. Et alors là, c'est pareil, ça a été un bouleversement très court à la bourse, mais suffisant. Il y a eu les cours qui ont grimpé, donc il y a des gens qui s'enrichissent derrière. Et voilà, alors ça c'est des choses qui arrivent soit à travers des fausses informations qui sont publiées par des agences de presse. Ça arrive, ça a été le cas de l'Associated Press qui s'était fait avoir avec un faux tweet en 2013. Là, il s'était fait hacker. Et puis, ben, il y a les faux sites que des gens s'empressent de le relayer sur Internet et qui arrivent à ce genre de choses. Donc, pour Twitter, plus de peur que de mal. Mais la question, elle est quand même de savoir qui c'est qui se met le pognon dans la poche avec tout ça.
Et si on calcule les sommes, je sais pas comment elle est l'action Twitter, mais les 14 millions d'actions échangées, vous allez voir qu'il y a plus de mouvements d'argent que il pourrait y avoir dans une grosse entreprise. C'est-à-dire que le monde financier phagocyte toute l'énergie et tout de l'argent du monde à et pas du tout de l'argent réel et productif, même au sens du capitalisme libéral classique. C'est vraiment de l'argent improductif, ces échanges-là.
Oui, puis ça entretient entre eux.
Ouais.
C'est exactement ça.
Et on poursuit donc avec un petit mot sur l'extrême droite française et un flop énorme. Et ça nous fait plaisir parce que bon, on s'y attendait un peu. Il y a eu déjà pas mal de petits articles hein, sur un truc qui s'appelle le mouvement du 14 juillet dans les sites qui lorgnent et qui regardent un peu ce qui se passe dans la fachosphère, comme on dit, ou sur les sites confusionnistes ou complotistes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce mouvement du 14 juillet, là, qui a été monté par Éric Fioril, je sais pas qui c'est un naturopathe, donc un peu d'extrême droite, forcément, donc ils avaient lancé un appel à rassemblement pour renverser le pouvoir en France, faire un coup d'État, ce 14 juillet, donc il y a quelques jours. On a par exemple Myriam Wouters, qui est le porte-parole du mouvement, qui a expliqué aux Inrecuptibles, elle a dit « On se rassemblera à Place de la Concorde, où se terminent les défilés ce jour-là. Les forces militaires auront un choix à faire, et on espère bien qu'elles vont nous rejoindre. Ensuite, on prendra le contrôle des bâtiments stratégiques, Élysée, Matignon, Palais du Luxembourg, Assemblée nationale. » Donc ils comptaient sur les militaires qui défilent pour rejoindre leur cause. Je ne sais pas comment ils comptaient les convaincre. En tout cas, ça a foiré, ça nous fait plaisir. A priori, le rassemblement a réuni entre 100 et 300 personnes, suivant les sources à peu près fiables et pas les sources du mouvement qui disent au moins 500. Et voilà, après ils ont fait quand même une manifestation entre eux. Ils ont été arrêtés par la police qui les a interpellés dans le but de vérifier les identités. Je pense qu'ils ont fait des relevés d'identité. Il n'y a pas de poursuite et de garde à vue, hein. C'était juste pour prendre les identités de tous ceux qui étaient proches de ce mouvement d'extrême droite qui a fait quand même un petit putsch, un poupoutch, hein, on pourrait appeler ça, parce que c'était quand même totalement ridicule. Alors, c'est assez récurrent chez les fachos et les complotistes d'inciter comme ça au putsch. On se rappelle, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une vidéo de Dieudonné en août 2013 où il appelait un coup d'État en France au secours du peuple. Voilà. Comme en Égypte. Comme quand il y a eu le coup d'État du dictateur actuel en Égypte. Il y a d'autres gens qui font un petit peu la même chose. Riposte Laïque, qui est un site raciste, lui aussi, c'était il n'y a pas bien longtemps, il y a deux mois, avait appelé, je cite, « nos généraux à prendre le pouvoir du pays pour 5 ou 6 ans, histoire de remettre tout d'aplomb et de nettoyer tout ça ». Je les cite, c'est bien évidemment pas mes paroles. Voilà, il y a d'autres mouvements comme ça dans les sites d'extrême droite qui ont régulièrement appelé à des putschs ou à des coups d'État. Vous appellerez ça comme vous voulez. Ce qu'on notera, c'est qu'il y a des changements hein, dans cette fachosphère, notamment l'arrivée d'un site qui commence à prendre de l'ampleur, qui s'appelle Agence Info Libre, qui est un site qui est tout beau, tout joli, qui ne fait pas du tout site de facho, qui notamment rapporte les mouvements de lutte écolo, qui peut se passer dans les grosses luttes comme dans les ZAD, et qui est en fait un site qui véhicule principalement des idées réactionnaires, principalement des idées d'extrême droite, et qui relaie Dieudonné et tous les complotistes, Soral et compagnie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler, continuer de faire attention aux sources d'information, puisqu'ils avancent masqués, et ce site-là est bien fait, et c'est quand on lit au fond des articles qu'on se dit « Ah mais non, mais les idées, elles sont vraiment... c'est des idées pourries », et oui, donc ils arrivent à être, je pense, dangereux pour les gens qui sont pas assez informés, pas assez éduqués peut-être pour résister à l'invasion de ces complotistes et de ces militants d'extrême droite.
Alors on va partir en Italie. 218 parlementaires italiens se sont prononcés pour la légalisation du cannabis.
Cool.
Ils ont présenté un projet de loi. Oui, le texte prévoit de légaliser l'usage du cannabis en autorisant la détention d'un maximum de 15 grammes à domicile et de 5 grammes dans la rue. Je n'ai pas dit non plus que c'était des profumettes, hein, pas pousser. Vous pourriez, avec ce projet de loi, cultiver quelques plantes chez vous et après, ça serait une culture qui serait encadrée par un monopole d'État. Donc, ils ont écrit un texte hein, que vous pouvez lire sur cannabislegal.org. Où il est à d'autres endroits, mais enfin voilà, j'ai ce lien-là. sous les yeux. Alors, à l'origine de ce projet, on trouve le sénateur Benedetto della Vedova. Il y a dedans des parlementaires qui sont de gauche, de centre-droite, centre-gauche. Enfin, voilà, on trouve le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Il y a, voilà, c'est pas un mouvement d'un seul et unique parti, hein, chez ces 218 parlementaires italiens. Alors, pourquoi et comment il justifie ce projet de loi ?
L'argent.
Non.
Ah, c'est surprenant ça, parce que c'est d'énormes rentrées d'argent de légaliser
ce. Il s'appuie comme un certain nombre d'autres politiques à travers le monde sur l'échec des politiques répressives. Il se base sur un rapport de la Direction nationale anti-mafia qui critique l'échec total des actions répressives et suggère une dépénalisation de l'usage des drogues douces, voilà, face à l'impossibilité littérale d'augmenter les efforts pour mieux réprimer ce trafic.
Et puis, une fois qu'on a légalisé ou dépénalisé, on peut refaire de la prévention correcte, parce que plutôt de dire c'est mal, c'est interdit, tout ça, on peut reparler des problématiques liées au cannabis quand on conduit, quand on travaille, des choses comme ça. Ce que aujourd'hui, ce qui est difficile à faire. Donc effectivement, ça peut être que positif.
Alors malheureusement, le chef passé, du gouvernement, Matteo Renzi, il est défavorable. Alors j'ai trouvé une autre position que nous ne commenterons pas. On vous laissera méditer et débattre entre la poire et le pétard. Alors non, le pétard c'est interdit, hein, c'est mal. Et la poire, l'alcool, c'est dangereux tout ça, ça nuit à la santé quand vous en buvez trop. Voilà pour les petites explications légales. Alors, c'est Matteo Salvini, monsieur Matteo Salvini, chef de la Ligue du Nord, qui nous dit... Oui, tu rigoles d'avance.
Ça y est,
c'est pour ça que je vous ai dit, nous ne commenterons pas, on vous laissera méditer et débattre. Je suis personnellement contre. Je serai en revanche favorable à la légalisation et à la réglementation de la prostitution. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le sexe ne fait pas de mal, le cannabis, oui. Voilà. Eh ben, allez, on va passer à la suite.
Alors,
si
le
tu veux
sexe
bien.
Ne fait pas de mal, par contre, l'exploitation des femmes, peut-être plus. Mais bon,
j'ai dit que nous ne commenterons pas si tu veux.
Ah là là, c'est
allez,
pas mal.
C'est parti.
Ils sont toujours bons, ces fachos. On va parler un peu de pollution. Ça a été dans tous les médias, mais on va revenir dessus. Donc, cette fameuse pollution de l'air dont on reparle en ce moment, dans ces grandes chaleurs où les particules fines nous attaquent et attaquent nos poumons, nos cœurs et nos artères. Avec ce fameux chiffre qui est sorti d'un rapport du Sénat, qui nous dit que ça coûte actuellement à la collectivité, c'est-à-dire à l'État, c'est-à-dire à nous, 100 milliards d'euros par an à travers les 650 000 arrêts de travail prescrits chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air liée aux hospitalisations, sur les cancers, ça a un impact sur les cancers importants, sur les troubles vasculaires et sur l'asthme. Les études scientifiques ont montré qu'il y avait à peu près 30% de l'asthme qui était dû à la pollution atmosphérique. Donc voilà, ça coûterait jusqu'à, on va dire, 97 milliards pour donner le chiffre au du rapport parlementaire. Alors ça, c'est ce qui a été donné. Face à ça, on attend des réactions. Alors pour l'instant, les réactions sont limitées. On a quand même le Sénat qui, à travers ce rapport, dit qu'il faut, il faut arriver à changer la donne, à arrêter de polluer, notamment en augmentant la fiscalité sur le diesel, hein, qui est le principal en été source de pollution aux petites particules dans les villes. Je ne parle pas des campagnes où c'est différent. Mais voilà. Alors, pourquoi on en est là et pourquoi il ne se passe rien ? C'est simple. Il suffit de regarder certaines enquêtes. J'en ai retrouvé une qui est parue le 6 juillet, donc très récente, qui a été lancée par Ramstad, l'agence d'intérim, donc c'est pas un truc écolo, hein, qui a lancé une enquête par un institut qui s'appelle ICMA sur comment se déplaçaient les salariés pour aller à leur travail, entre leur lieu d'habitation et leur lieu de travail. Pour, j'imagine, pour se servir pour leur travail d'intérimaire, hein, de fourniture de main-d'œuvre intérimaire. Alors, le chiffre qui est donné, c'est que 63% aujourd'hui des habitants de la France utilisent leur voiture personnelle pour se rendre au travail. 18% utilisent le transport en commun. Alors, si on regarde, et on a d'autres chiffres, 9% vont travailler à pied. C'est pas mal, ça, quand même, 9%. 1 sur 10, presque. 4% en deux roues, et seulement 2%, c'est le chiffre le plus faible, en covoiturage. C'est toujours un peu plus compliqué, le covoiturage. À moins d'être dans une grosse boîte où on peut trouver des gens qui habitent au même endroit et qui travaillent au même endroit. Hein. Forcément, ça limite pas mal. Donc, on apprend plein de choses sur les différences. Par exemple, qu'à Paris, 47% des habitants de Paris et du Grand Paris vont au travail en transport en commun. Donc c'est beaucoup plus que la moyenne nationale qui est de 18%. Pourquoi ? Parce que les transports en commun sont développés. C'est la première explication. La deuxième, c'est que c'est infernal de se balader en voiture à Paris. Puisque les régions qui utilisent le plus la voiture pour se déplacer, ce sont des régions comme la Champagne-Ardenne, où 77% des salariés utilisent la voiture. Dans le Limousin, 78%. Voilà. Les Auvergnats sont ceux qui se déplacent le plus à pied, 15% pour aller travailler. C'est pas mal. Mais ça veut dire aussi, peut-être, parce qu'il y a les distances qui sont associées, c'est que les emplois sont proches de là où ils habitent. C'est plus compliqué en région parisienne où habiter proche de son travail, c'est pas toujours facile puisque des fois c'est très cher là où est l'entreprise et on est obligé d'habiter là où c'est accessible aux revenus des salariés, hein, puisqu'on a aussi les distances, le temps de trajet. Par exemple, ceux qui vont à pied mettent en moyenne 14 minutes, en deux roues 19 minutes, les automobilistes en moyenne 23 minutes et en transport en commun 44 minutes. Hein. Donc c'est qu'une moyenne, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais ça nous explique pourquoi il y a de la pollution. C'est parce qu'effectivement, la voiture est le principal objet utilisé pour se déplacer et qui est donc la principale source de pollution dans les villes, notamment en été où on ne nous fait pas l'excuse du chauffage et des chauffages à bois, hein, comme on peut entendre l'hiver. Alors on attendait pas mal de réactions de Ségolène Royal, qui est la ministre officiellement de l'écologie, mais plutôt la ministre de la destruction de l'écologie si on regarde les faits. Et effectivement, elle a dit qu'elle n'était pas tout à fait d'accord sur les mesures préconisées par le Sénat, mais qu'elle prépare des mesures très fermes pour lutter contre la pollution. Sauf que quand elle dit très ferme, on les a pas, les mesures. Mais elle dit, mais faut arrêter de culpabiliser les gens et de taxer les gens. Alors si on culpabilise pas et si on taxe pas, moi j'aimerais bien avoir une idée sur comment elle va faire changer les habitudes des gens, à moins que elle ait cette idée de mettre par exemple les transports en commun gratuits, de généraliser les pistes cyclables, c'est-à-dire qu'il y ait autant de rues à voiture bagnolables, qu'on pourrait dire, que de rues cyclables. Ça serait une égalité totale, ça permettrait de développer, qui est l'arrêt des aides à l'automobile, à travers les aides industrielles, donc aux entreprises, mais aussi les aides aux particuliers sur l'automobile. Moi, je suis pas sûr qu'elle annonce ça. Je pense qu'elle continue d'être sous la pression du lobby automobile, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle ne veut pas taxer, alors qu'elle ne veut pas mettre l'égalité des taxes sur le diesel. Elle dit, mais je veux pas augmenter les taxes. Mais si elle veut mettre l'égalité des taxes sur le diesel et sur l'essence, elle est pas obligée d'augmenter les taxes du diesel. Elle peut descendre les taxes sur l'essence, hein, si elle veut les mettre à égalité. Mais non, elle en parle surtout pas. Donc voilà, forcément, quand on met quelqu'un qui est contre l'écologie en ministre de l'écologie, on peut pas avoir une politique écolo, ce qui a toujours été le cas quasiment dans les gouvernements. Il y a un contre-exemple chez les socialistes et un contre-exemple chez la droite, où il y a eu des ministres qui étaient un peu sensibilisés à l'écologie. Mais là, c'est vraiment une escroquerie totale. Bon, peut-être que je me trompe et que dans quelques mois, quand elle annoncera les mesures, tout ce que j'ai pu imaginer sur la limitation des voitures, le développement des transports en commun. Oui, alors elle dit des transports en commun, il faut mettre du... ça, c'est la nouvelle idéologie des libéraux sur la pollution, c'est qu'il faut des transports en commun électriques. Sauf qu'en fait, si il y avait pas de voiture individuelle et que des transports en commun, je suis pas sûr. Enfin, si, je suis sûr, ça pollue 8 fois moins. Donc, on aurait déjà 8 fois moins de pollution. On n'aurait plus qu'un tout petit problème à régler, hein. Mais non, on s'attaque au seul truc sur lequel ça n'a pas d'impact sur les électeurs. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié, c'est de la politique politicienne. C'est encore à moi, mince. J'allais m'arrêter après cet envolé, là, tout ça, là. Je continue. Alors.
Je crois que tu voulais nous parler de projet inutile.
Oui, mais alors, c'est quand même une bonne nouvelle, même si, à mon avis, c'est qu'une étape dans la guerre, qui oppose les défenseurs de l'environnement aux destructeurs de l'environnement, hein, pour faire un petit peu simple. C'est sur Roibon dont il est question. Vous savez, ce fameux Center Parks que nous prépare le gros groupe qui s'appelle Pierre et Vacances, qui possède les Center Parks. Donc c'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Grenoble a rendu son avis et il a suivi le rapporteur public. Donc il a annulé un des deux arrêtés préfectoraux concernant donc l'installation d'un Center Parks dans la forêt de Chambaran en Isère. C'est pour ça que c'est pas très loin de Grenoble. C'est le volet sur la loi sur l'eau qui donc a été rétoqué. Comme l'avait demandé le rapporteur public. Donc pour l'instant, il n'y a plus de défrichement des zones humides possibles par Center Parks et par Pierre et Vacances. Alors le PDG de Pierre et Vacances, qui s'appelle, j'ai perdu son nom, qui s'appelle Gérard Brémond, a réagi tout de suite en disant que de toute façon, il n'était pas envisageable du tout d'abandonner le projet de Center Parks à Roibon. Ah, mince, merde, c'est fou. Alors, camarades zadistes continuent de vous mobiliser. D'abord, ils n'ont pas arrêté le deux, ils n'ont pas coupé le deuxième arrêté préfectoral sur les espèces protégées. Donc, il y a encore du travail. Et vraisemblablement, Pierre Lacanze, ils vont revenir sur le sujet. Alors, je vais citer plein de fois ce qu'a dit ce fameux PDG Gérard Bremond. Donc, il a dit, je cite, on est sûr de la pertinence du projet, de la qualité de la localisation. On a un beau projet, créateur de 700 emplois en exploitation touristique, de plus de 1000 emplois en bâtiment. Or, le bassin du canton possède, dans le bassin du canton, il y a 6000 demandeurs d'emploi en instance. Ah, c'est le fameux chantage à l'emploi qui est de retour. On détruit l'environnement pour créer de l'emploi. C'est super bien. Je vous rappelle que le Center Parcs, c'est une espèce d'énorme bulle dans laquelle on maintient la température à 29 degrés. Alors vous imaginez, on n'est pas loin de Grenoble. Grenoble, l'hiver, il ne fait pas 29 degrés. Hein. Et bien donc, on va surchauffer cette bulle. Et l'été, Grenoble, il fait pas 29 non plus. On est plutôt dans les 35, voire 40, dans les périodes de canicule comme en ce moment. Ben là, ils baisseront la température. Bon, bref, c'est écologiquement une aberration. Alors, ils expliquent, de toute façon, ce qui leur a été reproché, c'est effectivement un truc qui est horrible dans le projet, dans les projets de loi actuels, dans les lois, c'est que quand une entreprise veut s'installer et détruit une zone humide, elle doit réaméliorer une zone humide ailleurs. Alors, au niveau de l'environnement, on s'en fout un peu. Parce qu'on détruit un endroit et pour améliorer ailleurs, mais c'est là où c'est l'endroit où on est qu'il fallait pas détruire. Donc il y a cette idée qu'on peut compenser, c'est horrible, compenser la destruction d'un endroit protégé en améliorant un autre endroit. Alors c'est ça qui a été mal vu. Ils vont revoir leur copie, et malheureusement ils vont revenir avec un projet qui sera certainement mieux bouclé. C'est pour ça que la lutte doit continuer, parce que c'est qu'une guerre. Comme dans toutes les guerres, la bataille là a été gagnée par les protecteurs de l'environnement, mais vraisemblablement sur le long terme, ça va être quand même un petit peu difficile. Et après, je vais citer la dernière phrase que je trouve très très belle. Il a dit, on attire pratiquement 3 millions de clients par an en Europe. Ça prouve que ça correspond à une vraie demande. Je ne pense pas que les clients de Center Parcs en Europe sont tous des imbéciles et des bornés, a-t-il dit ce fameux monsieur Bremond, PDG du groupe Pierre et Vacances. Mais ils sont peut-être pas imbéciles et bornés, mais ils sont peut-être inconscients de ce qui se passe. Ils sont peut-être égoïstes, ils sont peut-être mal informés. Enfin, il y a peut-être plein de raisons pour expliquer pourquoi il y a ce tourisme qui détruit des régions entières avec ces zones semi-tropicales, parce qu'ils font des zones un peu semi-tropicales, un truc horrible. Des bulles, voilà, des bulles. Bref, la lutte continue à Roibon comme ailleurs, hein, puisqu'il y a d'autres ZAD, même si la plus célèbre continue de lutter. On n'a pas donné d'info depuis longtemps de Notre-Dame-des-Landes, mais ça continue de lutter là-bas aussi. Alors, on va faire des petites infos nucléaires. C'est pour ça que j'avais mis un petit générique autour du nucléaire, à travers le bel exemple des Simpsons sur le nucléaire. Donc on a une petite info sur l'ANDRA, donc c'est l'agence nationale qui gère les déchets radioactifs. Ils ont fait un rapport version 2015 de l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs. Et pour la première fois, cette agence d'État a mené un exercice de prospective pour savoir ce qui va arriver dans les années à venir sur les déchets et notamment sur la quantité de déchets. Ils ont suivi bien sûr les deux scénarios actuels, c'est-à-dire le statu quo sur la production d'énergie électrique d'origine nucléaire, donc on continue de produire toujours la même quantité, et le deuxième scénario, on ferme les réacteurs sur quand ils atteignent leur durée de vie de 40 ans. Alors dans les deux cas, finalement les volumes de déchets à court terme sont assez proches, à long terme non, parce qu'effectivement quand on arrête, si on ferme tout, on a une masse de déchets qui arrive à un moment, mais après ça s'arrête. Mais ils ont étudié donc les déchets, c'est trois catégories, hein, les très faibles activités, les faibles et moyennes activités à vie courte, il y a quatre catégories en fait, et les faibles activités à vie longue, et puis ceux qu'on met qu'on vitrifie, là, qui sont horriblement dangereux pendant plus de 100 000 ans. Hein. Et donc ils sont arrivés à des chiffres. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Ils ont prévu que d'ici 2070, ce volume-là serait multiplié par 3, ce qui n'est pas rassurant. Dans les deux scénarios, dans le scénario où on démantèle, ben, faut démanteler, oui, il faut bien récupérer tout ce qui est radioactif autour du cœur du réacteur. Et dans les scénarios où on démantèle pas, ben, c'est l'arrivée des déchets permanents qui arrivent par les gens qui rentrent dedans, qui sortent avec une combinaison contaminée, les barres d'uranium, les machins, tout ce qu'on sort. Pas le combustible, enfin le combustible c'est un peu à part, hein, c'est ceux qui sont vitrifiés. Hein. Alors ils estiment que on pourrait améliorer la gestion. Je vous rappelle que la gestion des déchets radioactifs, c'est de les séparer en des éléments courts, moyens et longue durée avec des radioactivités plus ou moins fortes, mais qu'on ne les retraite pas, contrairement à la propagande d'Areva là-dessus. Hein, on fait que les séparer et les mettre dans des compartiments différents, des boîtes différentes. Donc voilà, c'est quand même pas rassurant sur le volume de déchets radioactifs qui va nous arriver d'ici les prochaines années. Et alors, quand même, le top du top du système antidémocratique qu'est le nucléaire, on dit toujours société nucléaire, société totalitaire, hein, c'était un slogan des écolos, ben c'est encore vrai. Parce que ils sont arrivés à faire voter le projet CIGEO de Bure en douce à l'Assemblée nationale. Alors le projet CIGEO de Bure, je vous rappelle ce que c'est qu'au départ c'est un laboratoire d'enfouissement de déchets radioactifs en couche profonde à 500 mètres de profondeur, et c'est un laboratoire, c'est-à-dire qu'il devait être fait des essais. Et puis il y a l'idée de le transformer en site d'enfouissement des déchets radioactifs sans possibilité de réversibilité. Et il y a eu plusieurs enquêtes publiques, hein, si on se rappelle bien, notamment la dernière qui date de 2014, qui s'est terminée un peu en eau de boudin parce que ils ont eu du mal à les organiser. Il y avait trop d'opposants et trop de gens contre, hein, l'enfouissement des déchets. Ils ont terminé par internet avec un truc vraiment foireux. Et finalement, grosso modo, l'enquête publique dit que c'est quand même mieux de les mettre à l'air libre, les déchets, pour qu'on les perde pas de vue, hein, qu'on continue de les protéger, de faire attention, plutôt que de les enfuir dans un endroit où on ne sait pas ce qui va, parce qu'une fois qu'on l'aura fermé, on ne saura pas bien ce qui peut se passer, surtout si c'est sur une échelle de 100 000 ans. Et, en tout cas, suite à cette enquête publique, il doit y avoir un débat parlementaire pour valider ce choix de Bure comme site d'enfouissement de déchets radioactifs, avec ou non une réversibilité. Eh bien, ils ont voté ça sans qu'il y ait de débat. Comment ils ont fait? Alors, c'est un nucléocrate célèbre, militant d'extrême droite dans sa jeunesse, Gérard Longuet, qui était membre d'Occitan, si ma mémoire est bonne, qui est sénateur des Républicains, qui a fait voter dans la loi Macron. Mais ça n'a rien à voir, me direz-vous. Alors c'est une technique parlementaire de faire des amendements dans les lois qui n'ont rien à voir et qui comme ça peuvent passer en douce, sans débat public, sans débat parlementaire et sans que ça arrive à l'oreille des citoyens.
C'est surtout la loi Macron, c'est un fourre-tout. Hein.
C'est un fourre-tout horrible déjà, et là ils sont arrivés donc à foutre du nucléaire dedans. Hein. Voilà. Et donc ça n'a rien à voir avec l'économie, tout ça. Alors, on ne va pas accuser la droite et les Républicains d'être porteurs de ça, parce que ça serait trop simple. Hein, l'industrie nucléaire, elle est arrivée à phagocyter le cerveau d'une grande partie des élus du Parlement et du Sénat, hein, sans aucun problème, puisque nous avons avec lui Jean-Yves Le Déault, qui est lui socialiste. Il y a Bruno Sido aussi, lui qui est sénateur Les Républicains, qui ils sont tous membres en fait de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et cet Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est sous pression des ingénieurs pro-nucléaires, et donc ils obéissent quasiment parce que vraisemblablement ces élus ont pas de culture scientifique ou en tout cas pas suffisamment, ni scientifique, ni écologique, ni militante, pour s'opposer à la pression ou au discours des lobbies pro-nucléaires, et donc ils le reportent tel quel. Donc Longuet, tel le héros du nucléaire, a déposé son amendement pour faire passer CIGEO comme, enfin Bure, donc, comme un site d'enfouissement, et c'est passé. Discrètement, sans débat, sans rien. La démocratie a succombé une fois de plus face au nucléaire. Vous allez me dire, on a des milliers d'exemples, mais c'en est un de plus. Voilà, c'est quand même assez triste. Et alors, toujours sur le nucléaire, le fils du retour de la vengeance de la puissance du nucléaire dans la loi de transition énergétique. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois. Au départ, le projet de loi disait qu'il fallait que le nucléaire, d'ici les 50 prochaines années, reste au chiffre de 63,2 gigawatts de production. Et puis quand c'est arrivé au Sénat, le Sénat avait fait passer à 64,85, un peu plus. Pourquoi donc? Parce qu'avec ce 64,85, on n'a pas besoin de fermer Flamanville. Flamanville, c'est ce qui se construit. On n'a pas besoin de fermer Fessenheim. Deuxième lecture au Parlement traditionnel, enfin, le retour donc au Parlement. On remet, les parlementaires remettent le chiffre de 63,2 gigawatts. Et là, en réunion plénière, le 15 juillet, les sénateurs ont remis 64,85 gigawatts, ce qui donc permettra de ne pas fermer Fessenheim. Ah, c'est beau quand même, toutes ces magouilles sur le nucléaire. Donc voilà, la ministre de la non-écologie, Ségolène Royal, a annoncé de toute façon que la promesse de fermer Fessenheim dans le mandat, elle serait pas tenable. Il recule une fois de plus. C'est traître de socialistes, mais ce n'est pas leur première traîtrise, puisqu'ils vont attendre, quoi qu'il arrive, le démarrage de Flamanville, justement, de l'EPR. Et comme le démarrage de Flamanville s'est repoussé au calende grec, dirons-nous, mais sans insulter le peuple grec, c'est-à-dire loin, hein, parce que au mieux, ça serait le second semestre 2017, on n'en est même pas sûr, vu les retards et les problèmes qu'il y a dans cette construction de centrale. Donc voilà. Une fois de plus, nous avons perdu.
Et nous allons terminer ce Canu Info par
un petit sondage.
Non, un petit quiz.
Un jeu.
Oui, c'est à la fois ludique et pédagogique, puisque nous sommes des personnes sérieuses dans ce Canu Info. Alors, c'est un quiz à faire à l'apéro, hein, évidemment, sans alcool et sans drogue. J'aimerais être sûr que le CSA ait bien compris, hein, quand même.
Oui. On ne fait pas de propagande pour le cannabis ou pour l'alcool.
Non, faites ce que vous voulez. Le quiz de LSA conso.fr se nomme donc distributeur qui a dit quoi. Il est paru hier sur le site internet. Alors, c'est sur le mode de qui a dit. Et LSA Conso nous propose de reconnaître les 10 phrases marquantes, sincères ou provocantes prononcées par les patrons, ex-patrons de la grande distribution.
Alors, c'est pas facile, il faut quand même connaître ce qu'ils disent, ces patrons. Quoi.
Alors, c'est un peu dur, hein, je vous le dis.
C'est pour les fans du patronat de la grande distribution, ce quiz.
Ouais. Mais quand même, ça vaut le coup d'œil.
Il y a des pépites, tu veux dire ?
Oui, il y a des pépites. Alors, bon, par exemple, il y a la question 3. Qui a dit « No connect, no business ». Vous avez le choix entre Vincent Mignot d'Auchan, Serge Papin, Système U, Alexandre Bompard de la FNAC.
Ah, moi, j'irais la FNAC.
Eh ben non, c'est Vincent Mignot de Auchan. Et oui. Nous avions aussi cette question. Qui a dit « Quand l'économie est difficile, la distribution va bien ». Nous avons Thierry Guibert de Conforama, Michel-Édouard Leclerc.
Ah ouais, moi c'est lui, je suis sûr que
Georges Plassat, Carrefour. Eh ben non, c'est Monsieur Plassat de Carrefour. Ah, c'est bien son genre,
je suis
quand
pas
même.
Bon, moi, hein.
Non, t'es pas bon, quoi.
Je connais pas assez.
Vous avez une autre question.
Patrons.
Alors, qui a dit « On ne fait pas la guerre des prix avec des pistolets à eau ». C'est pas mal, hein, ça aussi. Vous avez le choix entre Thierry Cotillard d'Intermarché, Vincent Mignot d'Auchan ou Georges Plassat de Carrefour.
Je sais pas.
C'est Thierry Cotillard d'Intermarché. Ah mais il y a la guéguerre entre la grande distribution quand même, hein, dans l'agroalimentaire. Et puis je vous ai gardé les deux pépites pour la fin. Je sais d'ailleurs même pas par laquelle je vais terminer. Allez. Question, qui a dit « Le débat sur l'ouverture le dimanche est hallucinant ». Vous avez le choix entre Michel-Édouard Leclerc, c'est une question facile, hein. Michel-Édouard Leclerc, Alexandre Bompard, donc toujours la FNAC, et Peter Reichneufel de IKEA.
Ah, la FNAC.
Ouais, tout à fait, c'était facile. Monsieur Bompard, hein, ce discours énerve. Et alors, je vous ai gardé quand même le meilleur pour la fin. Qui a dit « Si vous ne voulez pas être emmerdé par les syndicats, invitez-les de votre côté de la table ». Monsieur Gérard Nuyès.
Merci des pots de vin, ça veut dire.
Thierry Cotillard d'Intermarché ou Michel-Édouard Leclerc. Je vous répète, Gérard Nuyès, Thierry Cotillard, Michel-Édouard Leclerc, c'est facile aussi.
Non.
Ah si. Gérard Muyez, bien son style de sortir des trucs dans son genre. Hein. Voilà, donc c'est un quiz que vous pouvez retrouver sur lsaconso.fr en entier. Voilà, pour briller en société avec vos amis, vous aurez les meilleures phrases sorties par les grands dirigeants français, comme l'écrit en fin de paragraphe LSA Conso sur le site. Voilà.
Ouais, c'est pas facile, moi je trouve.
Non, mais en fait quand même, ils en disent des belles. Hein.
Ouais. Ça va être la fin de ce Canu Info. Vous remarquerez que nous n'avons pas parlé de la Grèce, de ce qu'on pourrait considérer comme une traîtrise, hein, de M. Tsipras, ou le fait qu'il n'ait pas le choix ou qu'il ait plié. Tsipras restant un social-démocrate, il faut quand même le dire, même s'il est dans Syriza. On en reparlera quand il y aura des vraies négociations, ce qui devrait arriver sur le réchauffement ou une partie d'annulation de la dette, hein, puisque c'est de ça dont il est question, et c'est ça qui est important et pas l'aide. Parce que là, on aide, donc on prête 50 milliards à la Grèce, mais ça veut dire qu'on augmente la dette de 50 milliards, donc on fait que enfoncer la Grèce, donc c'est pas l'aide qu'il faut, c'est le réchauffement, voire une annulation d'une grosse partie de la dette, qui est en plus de toute façon pas légitime. Mais voilà, donc on n'est pas rentré dans ce sujet-là, on n'a pas parlé du démasquage des terroristes, parce que voilà, la propagande des médias dominants suffit là-dessus.
Non, on n'a pas parlé non plus des problèmes de Cochenou et de Carrefour sur le Tour de France. On n'a pas parlé de la FNSEA cette semaine. Pourtant, nous aurions pu. Enfin, oui, il y a eu beaucoup de sujets, effectivement, que nous avons laissés de côté cette semaine, comme d'habitude.
Voilà, on choisit aussi des sujets qu'on entend moins ailleurs, ce qui nous permet de nous démarquer. Et donc, voilà.
En fait, vous l'aurez compris, on fait ce qu'on veut.
Et, bah, de toute façon, faut se rappeler. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Nous aussi, on fait ce qu'on veut. Nous sommes libres. C'était la fin de ce Canu Info de ce 16 juillet 2015. On vous souhaite une bonne soirée chaude, donc de boire des boissons fraîches. Vous choisirez les boissons fraîches.
On va aller jusqu'au bout de ce Canu Info pour voilà sur la question. D'ailleurs, il paraît que le rosé, ça pourrait être un sujet que je pourrais vous faire parce qu'il est en pleine explosion en France.
Quand il fait chaud, on boit du rosé.
C'est un vrai marché un peu particulier dans le vin, puisqu'il a été saisi par des gens qui ne faisaient pas forcément du vin. C'est une explosion d'ailleurs aussi à l'international. Voilà, c'est un sujet économique que je pourrais vous faire pendant que vous dégustez une boisson fraîche.
Ouais,
voilà, on se retrouvera en tout cas nous la semaine prochaine. Voilà, peut-être à l'apéro, on ne sait pas. On a décidé d'être encore là pendant quelques temps sur ce mois de juillet. Donc, si vous êtes par là, eh ben ça nous fera toujours plaisir que vous passiez ce moment avec nous.
Alors, on rappelle que Radio Canu a lancé une campagne de dons. On va acheter cette fois-ci. Nous allons signer d'ici la fin d'année, hein, c'est sûr. Donc cette fois-ci, il faut boucler le budget. Donc si vous avez encore quelques pépettes que vous n'avez pas prévu de dépenser pendant les vacances, n'hésitez pas à penser à Radio Canu. Je vous laisse aller voir sur le site radiocanu.org pour qu'on puisse continuer à faire des informations différentes et à terminer en parlant de n'importe quoi. Mais pas de la campagne de dons aussi.
Allez, voilà. Bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao.
Bye bye, bonne soirée.